Crime et châtiment, épilogue 1. La Sibérie. Au bord d'un fleuve, large et désert, s'élève une ville, un des centres administratifs de la Russie. Dans la ville, il y a une forteresse, dans la forteresse, une prison. Dans la prison est détenu depuis 9 mois Rodion Romanovitch Raskolnikov, condamné aux travaux forcés, deuxième catégorie. Près de 18 mois se sont écoulés depuis le jour où il a commis son crime. L'instruction de son affaire ne rencontra guère de difficultés. Le coupable renouvela ses aveux avec autant de force que de netteté et de précision, sans embrouiller les circonstances, sans en adoucir l'horreur, sans pallier les faits, sans oublier le moindre détail. Il fit un récit complet de l'assassinat. Il éclaircit le mystère du gage trouvé dans les mains de la vieille. On se rappelle que c'était un morceau de bois joint à un morceau de fer. Il raconta comment il avait pris les clés dans la poche de la victime. Il décrivit ses clés. Il décrivit le coffre et en indiqua le contenu. Il expliqua le meurtre d'Elisabeth, resté jusqu'alors une énigme. Il raconta comme quoi Coq était venu et avait frappé à la porte, comme quoi après lui était arrivé un étudiant. Il rapporta de point en point la conversation qui avait eu lieu entre ces deux hommes. Ensuite, lui, l'assassin, s'était élancé dans l'escalier. Il avait entendu les cris de Mikolka et de Mitka, s'était caché dans le logement vide, puis avait regagné sa demeure. Enfin, quant aux objets volés, il fit connaître qu'il les avait enfouis sous une pierre dans une cour, donnant sur la perspective de l'ascension. On les y retrouva en effet. Bref, la lumière fut faite sur tous les points. Ce qui, entre autres choses, étonnait beaucoup les enquêteurs et les juges, c'était qu'au lieu de profiter des dépouilles de sa victime, l'assassin fut allé les cacher sous une pierre. Il comprenait moins encore que non seulement il ne se souvint pas exactement de tous les objets volés par lui, mais que même il se trompa sur leur nombre. On trouvait surtout invraisemblable qu'il n'eût pas ouvert une seule fois la bourse et qu'il en ignorât le contenu. Elle renfermait 317 roubles et 3 pièces de 20 kopecks. Par suite du long séjour sous la pierre, les plus gros assignats qui étaient placés au-dessus des autres avaient été considérablement détériorés. Pendant longtemps, on s'ingénia à deviner pourquoi, sur ce seul point, l'accusé mentait, alors que sur tout le reste, il avait dit spontanément la vérité. À la fin, quelques-uns, surtout parmi les psychologues, admirent comme possible qu'en effet, il n'eût pas visité la bourse, et que, dès lors, il s'en fût débarrassé sans savoir ce qu'elle contenait. Mais ils en tirèrent aussitôt la conclusion que le crime même avait été nécessairement commis sous l'influence d'une folie momentanée. Le coupable, dirent-ils, a cédé à la monomanie maladive de l'assassinat et du vol, sans but ultérieur, sans calcul intéressé. C'était l'occasion ou jamais de mettre en avant la théorie moderne de l'aliénation temporaire, théorie à l'aide de laquelle on cherche si souvent aujourd'hui à expliquer les actes de certains malfaiteurs. D'ailleurs, l'affection hypochondriaque dont souffrait Raskolnikov était attestée par de nombreux témoins. Le docteur Zosimov, les anciens camarades de l'accusé, sa logeuse, les gens de service. Tout cela donnait fortement à penser que Raskolnikov n'était pas tout à fait un assassin ordinaire, un vulgaire escarpe, mais qu'il y avait autre chose dans son cas. Au grand dépit des partisans de cette opinion, le coupable lui-même n'essaya guère de se défendre. Interrogé sur les motifs qui avaient pu le pousser au meurtre et au vol, il déclara, avec une brutale franchise, qu'il y avait été amené par la misère. Il espérait, dit-il, trouver chez sa victime au moins 3 000 roubles, et il comptait avec cette somme assurer ses débuts dans la vie. Son caractère léger et bas, aigri par les privations et les revers, avait fait de lui un assassin. Quand on lui demanda pourquoi il était allé se dénoncer, il répondit carrément qu'il avait joué la comédie du repentir. Tout cela était presque cynique. Cependant, l'arrêt fut moins sévère qu'on aurait pu le présumer, eu égard au crime commis. Peut-être sut-on gré aux prévenus de ce que, loin de chercher à s'innocenter, il s'était au contraire plutôt appliqué à se charger lui-même. Toutes les particularités étranges de la cause furent prises en considération. L'état de maladie et de détresse où se trouvait le coupable avant l'accomplissement du crime ne pouvait faire le moindre doute. Comme il n'avait pas profité des objets volés, on supposa ou que le remords l'en avait empêché, ou que ses facultés intellectuelles n'étaient pas absolument intactes lorsqu'il avait consommé son forfait. Le meurtre nullement prémédité d'Élisabeth fournit même un argument à l'appui de cette dernière conjecture. Un homme commet deux assassinats et en même temps il oublie que la porte est ouverte. Enfin, il était allé se dénoncer, et cela au moment où les faux aveux d'un fanatique à l'esprit détraqué, Nicolas, venaient de dévoyer complètement l'instruction, alors que la justice était à 100 lieues de soupçonner le vrai coupable. Porfir Petrovitch tint religieusement sa parole. Toutes ces circonstances contribuèrent à tempérer la sévérité du verdict. D'autre part, les débats mirent brusquement en lumière plusieurs faits tout à l'honneur de l'accusé. Des documents produits par l'ancien étudiant Razoumikhin établirent qu'étant à l'université, Raskolnikov avait, 6 mois durant, partagé ses maigres ressources avec un camarade pauvre et malade de la poitrine. Ce dernier était mort, laissant dans le dénuement un père infirme dont il était, depuis l'âge de 13 ans, l'unique soutien. Raskolnikov avait fait entrer le vieillard dans une maison de santé, et plus tard, il avait pourvu aux frais de son enterrement. Le témoignage de la veuve Zarnidzine fut aussi très favorable à l'accusé. Elle déposa qu'à l'époque où elle habitait aux 5 coins avec son locataire, un incendie s'étant déclaré la nuit dans une maison, Raskolnikov avait, au péril de sa vie, sauvé des flammes 2 petits-enfants. Il s'était même grièvement brûlé en accomplissant cet acte de courage. Une enquête eut lieu au sujet de ce fait, et de nombreux témoins en certifièrent l'exactitude. Bref, la cour, tenant compte au coupable de ses aveux ainsi que de ses bons antécédents, le condamna seulement à 8 années de travaux forcés. Deuxième catégorie. Dès l'ouverture des débats, la mère de Raskolnikov était tombée malade. Dounia et Razoumikhin trouvèrent moyen de l'éloigner de Pétersbourg pendant toute la durée du procès. Razoumikhin choisit une ville desservie par le chemin de fer et située à peu de distance de la capitale. Dans ces conditions, il pouvait suivre assidûment les audiences et voir assez souvent Avdotia Romanovna. La maladie de Pulcherie Alexandrovna était une affection nerveuse assez étrange, avec dérangement, au moins partiel, des facultés mentales. De retour au logis, après sa dernière entrevue avec son frère, Dounia avait trouvé sa mère très souffrante, en proie à la fièvre et au délire. Ce même soir, elle convint avec Razoumikhin des réponses à faire, lorsque Pulcherie Alexandrovna demanderait des nouvelles de Rodion. Ils inventèrent toute une histoire, comme quoi Raskolnikov avait été envoyé fort loin, au bout de la Russie, avec une mission qui devait lui rapporter beaucoup d'honneur et de profit. Mais, à leur grande surprise, ni alors ni plus tard, la vieille ne les questionna à ce sujet. Elle-même, d'ailleurs, s'était mis dans la tête un roman pour expliquer la brusque disparition de son fils. Elle racontait en pleurant la visite d'adieu qu'il lui avait faite. À cette occasion, elle laissait entendre qu'elle seule connaissait plusieurs circonstances mystérieuses et fort graves. Rodion était obligé de se cacher parce qu'il avait des ennemis très puissants. Du reste, elle ne doutait pas que son avenir ne fût très brillant dès que certaines difficultés seraient écartées. Elle assurait à Razoumikhin qu'avec le temps, son fils deviendrait un homme d'État. Elle en avait la preuve dans l'article qu'il avait écrit et qui dénotait un talent littéraire si remarquable. Cet article, elle le lisait sans cesse, parfois même à haute voix. On pouvait presque dire qu'elle couchait avec, et pourtant, elle ne demandait guère où se trouvait maintenant Rodia. Quoique le soin même qu'on prenait d'éviter ce sujet d'entretien eût pu déjà lui paraître suspect. Le silence étrange de Pulchérie Alexandrovna sur certains points finit par inquiéter Avdotia Romanovna et Razoumikhine. Ainsi, elle ne se plaignait même pas que son fils ne lui écrivît point, tandis qu'autrefois, dans sa petite ville, elle attendait toujours avec une extrême impatience les lettres de son bien-aimé Rodia. Cette dernière circonstance était tellement inexplicable que Dounia en fut alarmée. L'idée vint à la jeune fille que sa mère avait le pressentiment d'un malheur terrible survenu à Rodia et qu'elle n'osait questionner de peur d'apprendre quelque chose de pire encore. En tout cas, Dounia voyait très bien que Pulchérie Alexandrovna avait le cerveau dérangé. Deux fois, du reste, celle-ci conduisit elle-même la conversation de telle façon qu'il fut impossible de lui répondre sans indiquer où se trouvait présentement Rodia. À la suite des réponses nécessairement louches et embarrassées qu'on lui donna, elle tomba dans une profonde tristesse. Pendant fort longtemps, on la vit sombre et taciturne, comme elle ne l'avait jamais été. Dounia s'aperçut enfin que les mensonges, les histoires inventées allaient contre leur but, et que le mieux était de se renfermer dans un silence absolu sur certains points. Mais il devint de plus en plus évident pour elle que Pulchérie Alexandrovna soupçonnait quelque chose d'affreux. Dounia savait notamment, son frère le lui avait dit, que sa mère l'avait entendu parler en rêve dans la nuit qui avait suivi son entrevue avec Svidrigaïlov. Les mots échappés au délire de la jeune fille n'avaient-ils pas porté une sinistre lumière dans l'esprit de la pauvre femme? Souvent, parfois après des jours, des semaines même de sombre mutisme et de larmes silencieuses, une sorte d'exaltation hystérique se produisait chez la malade. Elle se mettait soudain à parler tout haut, presque sans discontinuer, de son fils, de ses espérances, de l'avenir. Ses imaginations étaient quelquefois fort étranges. On faisait semblant d'être de son avis. Peut-être n'était-elle pas dupe de cet assentiment. Néanmoins, elle ne cessait pas de parler. Le jugement fut rendu 5 mois après l'aveu fait par le criminel à Ilia Petrovitch. Dès que cela fut possible, Razoumikhine alla voir le condamné dans la prison. Sonia le visita aussi. Arriva enfin le moment de la séparation. Dounia jura à son frère que cette séparation ne serait pas éternelle. Razoumikhine tint le même langage. L'ardent jeune homme avait un projet fermement arrêté dans son esprit. On amasserait quelque argent pendant 3 ou 4 ans, puis on se transporterait en Sibérie, pays où tant de richesses n'attendent pour être mises en valeur que des capitaux et des bras. Là, on se fixerait dans la ville où serait Rodia, et on commencerait ensemble une vie nouvelle. Tous pleurèrent en se disant adieu. Depuis quelques jours, Raskolnikov se montrait fort soucieux. Il multipliait les questions au sujet de sa mère, s'inquiétait constamment d'elle. Cette excessive préoccupation de son frère faisait peine à Dounia. Quand il eut été renseigné avec plus de détails sur l'état maladif de Pulchérie Alexandrovna, il devint extrêmement sombre. Avec Sonia, il était toujours fort taciturne. Muni de l'argent que Svidrigaïlov lui avait remis, la jeune fille était depuis longtemps décidée à accompagner le convoi de prisonniers dont Raskolnikov ferait partie. Jamais un mot n'avait été échangé à ce propos entre elle et lui, mais tous deux savaient qu'il en serait ainsi. Au moment des derniers adieux, le condamné eut un sourire étrange en entendant sa sœur et Razoumikhine lui parler en termes chaleureux de l'avenir prospère qui s'ouvrirait pour eux après sa sortie de prison. Il prévoyait que la maladie de sa mère ne tarderait pas à la conduire au tombeau. Enfin, eut lieu le départ de Raskolnikov et de Sonia. Deux mois après, Dounetchka épousa Razoumikine. Ce fut une noce tranquille et triste. Parmi les invités se trouvèrent Porfir Petrovitch et Zosimov. Depuis quelque temps, tout dénotait chez Razoumikine un homme ayant pris une résolution énergique. Dounia croyait aveuglément qu'il mettrait à exécution tous ses desseins, et elle ne pouvait pas ne pas le croire, car on voyait en lui une volonté de faire. Il commença par rentrer à l'université afin de terminer ses études. Les deux époux élaboraient sans cesse des plans d'avenir. Ils avaient l'un et l'autre la ferme intention d'émigrer en Sibérie, dans un délai de 5 ans. En attendant, ils comptaient sur Sonia pour les remplacer là-bas. Pulcheria Alexandrovna accorda avec bonheur la main de sa fille à Razoumikine. Mais après ce mariage, elle parut devenir plus soucieuse et plus triste encore. Pour lui procurer un moment agréable, Razoumikine lui apprit la belle conduite de Raskolnikov à l'égard de l'étudiant et de son vieux père. Il lui raconta aussi comment, l'année précédente, Rodia avait exposé ses jours pour sauver 2 petits enfants sur le point de périr dans un incendie. Ces récits exaltèrent au plus haut degré l'esprit déjà troublé de Pulcheria Alexandrovna. Elle ne parla plus que de cela. Dans la rue même, elle faisait part de ses nouvelles aux passants, quoique Dounia l'accompagnât toujours. Dans les voitures publiques, dans les magasins, partout où elle rencontrait un auditeur bénévole, elle mettait la conversation sur son fils, l'article de son fils, la bienfaisance de son fils à l'égard d'un étudiant, le courageux dévouement dont son fils avait fait preuve dans un incendie, etc. Dounetchka ne savait comment la faire taire. Cette excitation maladive n'était pas sans danger. Outre qu'elle épuisait les forces de la pauvre femme, il pouvait très bien se faire que quelqu'un, entendant nommer Raskolnikov, se mit à parler du procès. Pulcheria Alexandrovna se procura même l'adresse de la femme dont les enfants avaient été sauvés par son fils et voulut absolument aller la voir. À la fin, son agitation atteignit les dernières limites. Parfois, elle fondait brusquement en larmes. Souvent, elle avait des accès de fièvre durant lesquels elle battait la campagne. Un matin, elle déclara nettement que, d'après ses calculs, Rodia devait bientôt revenir, car quand il était venu lui faire ses adieux, il lui avait annoncé son retour dans un délai de 9 mois. Elle commença donc à tout préparer dans le logement en vue de l'arrivée prochaine de son fils. Lui destinant sa propre chambre, elle se mit en devoir de la ranger, époussota les meubles, lava le parquet, changea les rideaux, etc. Dounia était désolée, mais elle ne disait rien, et même aider sa mère dans ses diverses occupations. Après une journée remplie tout entière de visions folles, de rêves joyeux et de larmes, Pulcheria Alexandrovna fut prise d'une fièvre chaude. Elle mourut au bout de 15 jours. Plusieurs paroles prononcées par la malade durant son délire donnèrent à croire qu'elle avait presque entièrement deviné l'affreux secret dont son entourage s'était efforcé de lui dérober la connaissance. Raskolnikov ignora longtemps la mort de sa mère, quoique depuis son arrivée en Sibérie, il reçut régulièrement des nouvelles de sa famille par l'entremise de Sonia. Chaque mois, la jeune fille envoyait une lettre à l'adresse de Razoumikine, et chaque mois on lui répondait de Pétersbourg. Les lettres de Sonia parurent d'abord à Dounia et à Razoumikine quelque peu sèches et insuffisantes, mais plus tard, tous deux comprirent qu'il était impossible d'en écrire de meilleurs, attendu qu'en somme, ils y trouvaient les données les plus complètes et les plus précises sur la situation de leur malheureux frère. Sonia décrivait d'une façon très simple et très nette toute l'existence de Raskolnikov en prison. Elle ne parlait ni de ses propres espérances, ni de ses conjectures quant à l'avenir, ni de ses sentiments personnels. Au lieu de chercher à expliquer l'état moral, la vie intérieure du condamné, elle se bornait à citer des faits, c'est-à-dire les paroles mêmes prononcées par lui. Elle donnait des nouvelles détaillées de sa santé, Elle disait quel désir il lui avait manifesté, quelles questions il lui avait faites, de quelle commission il l'avait chargé au cours de leurs entrevues, etc. Mais ces renseignements, quelque circonstanciés qu'ils fussent, n'étaient guère, dans les premiers temps surtout, d'une nature consolante. Dounia et son mari apprenaient par la correspondance de Sonia que leur frère était toujours sombre et taciturne. Quand la jeune fille lui communiquait les nouvelles reçues de Pétersbourg, il y faisait à peine attention. Parfois, il s'informait de sa mère, et lorsque Sonia, voyant qu'il devinait la vérité, lui avait enfin annoncé la mort de Pulchéri Alexandrovna, elle avait remarqué, à sa grande surprise, qu'il était resté à peu près impassible. Bien qu'il paraisse entièrement absorbé en lui-même et comme étranger à tout ce qui l'entoure, écrivait entre autres choses Sonia, il envisage très franchement sa vie nouvelle. Il comprend très bien sa situation, n'attend rien de mieux d'ici à longtemps, ne se berce d'aucun espoir frivole et n'éprouve presque aucun étonnement dans ce milieu nouveau qui diffère tant de l'ancien. Sa santé est satisfaisante, il va au travail sans répugnance et sans empressement. Il est presque indifférent à la nourriture, mais, sauf les dimanches et les jours de fête, cette nourriture est si mauvaise qu'à la fin il a consenti à accepter de moi quelque argent pour se procurer du thé tous les jours. Quant au reste, il me prie de ne pas m'en inquiéter, car, assure-t-il, il lui est désagréable qu'on s'occupe de lui. En prison, lisait-on dans une autre lettre, il est logé avec les autres détenus. Je n'ai pas visité l'intérieur de la forteresse, mais j'ai lieu de penser qu'on y est fort mal, fort à l'étroit et dans des conditions insalubres. Il couche sur un lit de camp recouvert d'un tapis de feutre. Il ne veut rien d'autre. S'il refuse tout ce qui pourrait rendre son existence matérielle moins dure et moins grossière, ce n'est nullement par principe, en vertu d'une idée préconçue, mais simplement par apathie, par indifférence. Sonia avouait qu'au commencement surtout, ses visites, loin de faire plaisir à Raskolnikov, lui causaient une sorte d'irritation. Il ne sortait de son mutisme que pour dire des grossièretés à la jeune fille. Plus tard, il est vrai, ces entrevues étaient devenues pour lui une habitude, presque un besoin, à ce point qu'il avait été fort triste lorsqu'une indisposition de quelques jours avait obligé Sonia d'interrompre ses visites. Les jours fériés, il se voyait, soit à la porte de la prison, soit au corps de garde, où l'on envoyait pour quelques minutes le prisonnier quand elle le faisait appeler. En temps ordinaire, elle allait le trouver au travail, dans les ateliers, dans les briqueteries, dans les hangars, établis sur les bords de l'Irtych. En ce qui la concernait, Sonia disait qu'elle avait réussi à se créer des relations dans sa nouvelle résidence, qu'elle s'occupait de couture, et que, la ville ne possédant presque aucune modiste, elle s'était déjà fait une assez jolie clientèle. Ce qu'elle ne disait pas, c'était qu'elle avait appelé sur Raskolnikov l'intérêt de l'autorité, que grâce à elle, on le dispensait des travaux les plus pénibles, etc. Enfin, Razoumikine et Dounia reçurent avis que Raskolnikov fuyait tout le monde, que ses compagnons de captivité ne l'aimaient pas, qu'il restait silencieux durant des journées entières et devenait fort pâle. Déjà, Dounia avait remarqué une certaine inquiétude dans les dernières lettres de Sonia. Soudain, celle-ci écrivit que le condamné était tombé gravement malade et qu'il avait été mis à l'hôpital de la prison. Épilogue 2. Il était malade depuis longtemps déjà, mais ce qui avait brisé ses forces, ce n'était ni les horreurs de la captivité, ni le travail, ni la nourriture, ni la honte d'avoir la tête rasée et d'être vêtu de haillons. Oh, que lui importaient toutes ces tribulations, toutes ces misères? Loin de là, il était même bien aise d'avoir à travailler. La fatigue physique lui procurait du moins quelques heures de sommeil paisible. Et que signifiait pour lui la nourriture? Cette mauvaise soupe aux choux où l'on trouvait des blattes? Jadis, étant étudiant, il aurait été quelquefois bien heureux d'avoir cela à manger. Ses vêtements étaient chauds et appropriés à son genre de vie. Quant à ses fers, il n'en sentait même pas le poids. Restait l'humiliation d'avoir la tête rasée et de porter la livrée du bagne. Mais devant qui aurait-il rougi? Devant Sonia? Elle avait peur de lui. Comment aurait-il rougi devant elle? Pourtant, la honte le prenait vis-à-vis de Sonia elle-même. C'était pour cela qu'il se montrait grossier et méprisant dans ses rapports avec la jeune fille. Mais cette honte ne venait ni de sa tête rasée, ni de ses fers. Son orgueil avait été cruellement blessé. Raskolnikov était malade de cette blessure. Oh, qu'il aurait été heureux s'il avait pu s'accuser lui-même! Alors il aurait tout supporté, même la honte et le déshonneur. Mais il avait beau s'examiner sévèrement, sa conscience endurcie ne trouvait dans son passé aucune faute particulièrement effroyable. Il ne se reprochait que d'avoir échoué, chose qui pouvait arriver à tout le monde. Ce qui l'humiliait, c'était de se voir, lui, Raskolnikov, perdu sautement, perdu sans retour, par un arrêt de l'aveugle destinée. Et il devait se soumettre, se résigner à l'absurdité de cet arrêt, s'il voulait retrouver un peu de calme. Une inquiétude, sans objet et sans but dans le présent, un sacrifice continuel et stérile dans l'avenir, voilà ce qui lui restait sur la terre. Vaine consolation pour lui de se dire que dans 8 ans, il n'en aurait que 32, et qu'à cet âge, on pouvait encore recommencer la vie. Pourquoi vivre? En vue de quoi? Vers quel objet tendre? Vivre pour exister? Mais de tout temps, il avait été prêt à donner son existence pour une idée, pour une espérance, pour une fantaisie même. Il avait toujours fait peu de cas de l'existence pure et simple. Il avait toujours voulu davantage. Peut-être la force seule de ses désirs lui avait-elle fait croire jadis qu'il était de ces hommes à qui il est plus permis qu'aux autres. Encore si la destinée lui avait envoyé le repentir. Le repentir poignant qui brise le cœur, qui chasse le sommeil. Le repentir dont les tourments sont tels que l'homme se pend ou se noie pour y échapper. Oh, il l'aurait accueilli avec bonheur. Souffrir et pleurer, c'est encore vivre. Mais il ne se repentait pas de son crime. Du moins, il aurait pu s'en vouloir de sa sottise, comme il s'était reproché autrefois les actions stupides et odieuses qu'il avait conduites en prison. Mais maintenant que dans le loisir de la captivité, il réfléchissait à nouveau sur toute sa conduite passée, il ne la trouvait plus, à beaucoup près, aussi odieuse ni aussi stupide qu'elle le lui avait paru dans ce temps-là. « En quoi, pensait-il, mon idée était-elle plus bête que les autres idées et théories qui se livrent bataille dans le monde depuis que le monde existe? Il suffit d'envisager la chose à un point de vue large, indépendant, dégagé des préjugés du jour. Et alors, certainement, mon idée ne paraîtra plus aussi étrange. Oh, esprit soi-disant affranchi, philosophe de syncopec, pourquoi vous arrêtez-vous à mi-chemin? Et pourquoi ma conduite leur paraît-elle si laide? Se demandait-il. Parce que c'est un crime? Que signifie le mot crime? Ma conscience est tranquille? Sans doute j'ai commis un acte illicite. J'ai violé la lettre de la loi et versé le sang. Eh bien, prenez ma tête. Voilà tout. Certes, en ce cas, plusieurs même des bienfaiteurs de l'humanité, de ceux à qui le pouvoir n'est pas venu par héritage, mais qui s'en sont emparés de vive force, auraient dû, dès leur début, être livrés au supplice. Mais ces gens-là sont allés jusqu'au bout, et c'est ce qui les justifie. Tandis que moi, je n'ai pas su poursuivre. Par conséquent, je n'avais pas le droit de commencer. Il ne se reconnaissait qu'un seul tort, celui d'avoir faibli, d'être allé se dénoncer. Une pensée aussi le faisait souffrir. Pourquoi alors ne s'était-il pas tué? Pourquoi, plutôt que de se jeter à l'eau, avait-il préféré se livrer à la police? L'amour de la vie était-il donc un sentiment si difficile à vaincre? Svidrigaïlov pourtant en avait triomphé. Il se posait douloureusement cette question et ne pouvait comprendre que, quand en face de la Neva il songeait au suicide, alors même peut-être il pressentait en lui et dans ses convictions une erreur profonde. Il ne comprenait pas que ce pressentiment pouvait contenir en germe une nouvelle conception de la vie, que ce pouvait être le prélude d'une révolution dans son existence, le gage de sa résurrection. Il admettait plutôt qu'il avait alors cédé, par lâcheté et défaut de caractère, à la force brutale de l'instinct. Le spectacle offert par ses compagnons de captivité l'étonnait. Combien tous ils aimaient aussi la vie, combien ils l'appréciaient. Il semblait même à Raskolnikov que ce sentiment était plus vif chez le prisonnier que chez l'homme libre. Quelles affreuses souffrances n'enduraient pas certains de ces malheureux, les vagabonds par exemple. Se pouvait-il qu'un rayon de soleil, un bois sombre, une fontaine fraîche, eussent tant de prix à leurs yeux? À mesure qu'il les observa davantage, il découvrit des faits plus inexplicables encore. Dans la prison, dans le milieu qui l'entourait, bien des choses sans doute lui échappaient. D'ailleurs, il ne voulait fixer son attention sur rien. Il vivait, pour ainsi dire, les yeux baissés, trouvant insupportable de regarder autour de lui. Mais à la longue, plusieurs circonstances le frappèrent, et malgré lui, en quelque sorte, il commença à remarquer ce qu'il n'avait même pas soupçonné auparavant. En général, ce qui l'étonnait le plus, c'était l'abîme effrayant, infranchissable, qui existait entre lui et tous ces gens-là. On eût dit qu'ils appartenaient, eux et lui, à des nations différentes. Ils se regardaient avec une défiance et une hostilité réciproques. Ils savaient et comprenaient les causes générales de ce phénomène, mais jamais jusqu'alors ils ne les avaient supposées si fortes ni si profondes. Indépendamment des criminels de droit commun, il y avait dans la forteresse des Polonais envoyés en Sibérie pour causes politiques. Ces derniers considéraient leurs co-détenus comme des brutes et n'avaient pour eux que du dédain. Mais Raskolnikov ne pouvait partager cette manière de voir. Il s'apercevait fort bien que sous plusieurs rapports, ces brutes étaient beaucoup plus intelligentes que les Polonais eux-mêmes. Là aussi se trouvaient des Russes, un ancien officier et deux séminaristes qui méprisaient la plèbe de la prison. Raskolnikov remarquait également leur erreur. Quant à lui, on ne l'aimait pas, on l'évitait, on finit même par le haïr. Pourquoi? Il l'ignorait. Des malfaiteurs 100 fois plus coupables que lui le méprisaient, le raillaient. Son crime était l'objet de leur sarcasme. « Toi, tu es un barine !» lui disait-il. « Est-ce que tu devais assassiner à coups de hache? Ce n'est pas là l'affaire d'un barine !» Dans la seconde semaine du grand carême, il dut assister aux offices religieux avec sa chambrée. Il alla à l'église et pria comme les autres. Un jour, sans qu'il sût lui-même à quel propos, ses compagnons faillirent lui faire un mauvais parti. Il se vit brusquement assailli par eux. « Tu es un athée, tu ne crois pas en Dieu !» criaient tous ses forcenés. « Il faut te tuer !» Jamais il ne leur avait parlé ni de Dieu ni de la religion, et pourtant il voulait le tuer comme athée. Il ne leur répondit pas un mot. Un prisonnier, au comble de l'exaspération, s'élançait déjà sur lui. Raskolnikov, calme et silencieux, l'attendait, sans sourciller, sans qu'aucun muscle de son visage tressaillît. Un garde-chiourme se jeta à temps entre lui et l'assassin. Un instant plus tard, le sang aurait coulé. Il y avait encore une question qui restait insoluble pour lui. Pourquoi tous aimaient-ils tant Sonia? Elle ne cherchait pas à gagner leur bonne grâce. Ils n'avaient pas souvent l'occasion de la rencontrer. Parfois seulement ils la voyaient au chantier ou à l'atelier lorsqu'elle venait passer une minute auprès de lui. Et cependant, tous la connaissaient. Ils n'ignoraient pas qu'elle l'avait suivie. Ils savaient comment elle vivait, où elle vivait. La jeune fille ne leur donnait pas d'argent, ne leur rendait guère à proprement parler de service. Une fois seulement, à la Noël, elle apporta un cadeau pour toute la prison, des pâtés et des kalaji. Mais peu à peu, entre eux et Sonia, s'établirent certains rapports plus intimes. Elle écrivait pour eux des lettres à leur famille et les mettait à la poste. Quand leurs parents venaient à la ville, c'était entre les mains de Sonia que, sur la recommandation des prisonniers, ils remettaient des objets et même l'argent destiné à ceux-ci. Les femmes et les maîtresses des détenus la connaissaient et allaient chez elle. Lorsqu'elle visitait Raskolnikov en train de travailler au milieu de ses camarades, ou qu'elle rencontrait un groupe de prisonniers se rendant à l'ouvrage, tous ôtaient leurs bonnets, tous s'inclinaient. « Matouchka, Sophie Semenovna, tu es notre mère tendre et bien-aimée !» disaient ces galériens brutaux à la petite et chétive créature. Elle les saluait en souriant, et tous étaient heureux de ce sourire. Ils aimaient jusqu'à sa manière de marcher, et se retournaient pour la suivre des yeux lorsqu'elle s'en allait. Et que de louanges ils lui donnaient! Ils lui savaient gré même d'être si petite. Ils ne savaient quels éloges faire d'elle. Ils allaient jusqu'à la consulter dans leur maladie. Raskolnikov passa à l'hôpital toute la fin du carême et la semaine de Pâques. En revenant à la santé, il se rappela les songes qu'il avait faits pendant qu'il était en proie au délire. Il lui semblait alors voir le monde entier désolé par un fléau terrible et sans précédent qui, venu du fond de l'Asie, s'était abattu sur l'Europe. Tous devaient périr, sauf un très petit nombre de privilégiés. Des trichines d'une nouvelle espèce, des êtres microscopiques, s'introduisaient dans le corps des gens. Mais ces êtres étaient des esprits doués d'intelligence et de volonté. Les individus qui en étaient infectés devenaient à l'instant même fous furieux. Toutefois, chose étrange, jamais homme ne s'était cru aussi sage, aussi sûrement en possession de la vérité que ne croyaient l'être ces infortunés. Jamais ils n'avaient eu plus de confiance dans l'infaillibilité de leur jugement, dans la solidité de leurs conclusions scientifiques et de leurs principes moraux. Des villages, des villes, des peuples entiers étaient atteints de ce mal et perdaient la raison. Tous étaient agités et hors d'état de se comprendre les uns les autres. Chacun croyait posséder seul la vérité, et, en considérant ses semblables, se désolait, se frappait la poitrine, pleurait et se tordait les mains. On ne pouvait s'entendre sur le bien et sur le mal. On ne savait qui condamner, qui absoudre. Les gens s'entretuaient sous l'impulsion d'une colère absurde. Ils se réunissaient de façon à former de grandes armées, mais, une fois la campagne commencée, la division se mettait brusquement dans ses troupes, les rangs étaient rompus, les guerriers se jetaient les uns sur les autres, s'égorgeaient et se dévoraient. Dans les villes, on sonnait le tocsin toute la journée. L'alarme était donnée, mais par qui et à quel propos? Personne ne le savait, et tout le monde était en émoi. On abandonnait les métiers les plus ordinaires parce que chacun proposait ses idées, ses réformes, et l'on ne pouvait pas se mettre d'accord. L'agriculture était délaissée, ça et là les gens se réunissaient en groupe, s'entendaient pour une action commune, juraient de ne pas se séparer. Mais un instant après, ils oubliaient la résolution qu'ils avaient prise, ils commençaient à s'accuser les uns les autres, à se battre, à se tuer. Les incendies, la famine, complétaient ce triste tableau. Hommes et choses, tout périssait. Le fléau étendait de plus en plus ses ravages. Dans le monde entier, pouvaient seuls être sauvés quelques hommes purs, prédestinés à refaire le genre humain, à renouveler la vie et à purifier la terre. Mais personne ne voyait ces hommes nulle part, personne n'entendait leurs paroles et leurs voix. Ces songes absurdes laissèrent dans l'esprit de Raskolnikov une impression pénible qui fut longue à s'effacer. Arriva la deuxième semaine après Pâques. Le temps était chaud, serein, vraiment printanier. On ouvrit les fenêtres de l'hôpital, des fenêtres grillées sous lesquelles se promenait un factionnaire. Pendant toute la maladie de Raskolnikov, Sonia n'avait pu lui faire que deux visites. Chaque fois, il fallait demander une autorisation qui était difficile à obtenir. Mais souvent, surtout à la chute du jour, elle venait dans la cour de l'hôpital et durant une minute, restait là à regarder les fenêtres. Un jour, vers le soir, le prisonnier, déjà presque entièrement guéri, s'était endormi. À son réveil, il s'approcha par hasard de la croisée et aperçut Sonia, qui, debout près de la porte de l'hôpital, semblait attendre quelque chose. À cette vue, il eut comme le cœur percé. Il frissonna et s'éloigna vivement de la fenêtre. Le lendemain, Sonia ne vint pas, le surlendemain non plus. Il remarqua qu'il l'attendait avec anxiété. Enfin, il quitta l'hôpital. Lorsqu'il revint à la prison, ses co-détenus lui apprirent que Sophie Semenovna était malade et gardait la chambre. Il fut fort inquiet, envoya demander des nouvelles de la jeune fille. Il sut bientôt que sa maladie n'était pas dangereuse. De son côté, Sonia, voyant qu'il était si préoccupé de son état, lui écrivit au crayon une lettre où elle l'informait qu'elle allait beaucoup mieux, qu'elle avait pris un léger refroidissement et qu'elle ne tarderait pas à l'aller voir au travail. À la lecture de cette lettre, le cœur de Raskolnikov battit violemment. La journée était encore sereine et chaude. À 6 heures du matin, il alla travailler au bord du fleuve où l'on avait établi sous un hangar un four à cuire l'albâtre. 3 ouvriers seulement furent envoyés là. L'un d'eux, accompagné du garde-chiourme, alla chercher un instrument à la forteresse. Un autre commença à chauffer le four. Raskolnikov quitta le hangar, s'assit sur un banc de bois et se mit à contempler le fleuve large et désert. De cette rive élevée, on découvrait une grande étendue de pays. Au loin, de l'autre côté de l'Irtych, retentissaient des chants dont un vague écho arrivait aux oreilles du prisonnier. Là, dans l'immense steppe inondée de soleil, apparaissaient comme de petits points noirs les tentes des nomades. Là, c'était la liberté. Là vivaient d'autres hommes, qui ne ressemblaient nullement à ceux d'ici. Là, on eût dit que le temps n'avait pas marché depuis l'époque d'Abraham et de ses troupeaux. Raskolnikov rêvait, les yeux fixés sur cette lointaine vision. Il ne pensait à rien, mais une sorte d'inquiétude l'oppressait. Tout à coup, il se trouva en présence de Sonia. Elle s'était approchée sans bruit et s'assit à côté de lui. La fraîcheur du matin se faisait encore un peu sentir. Sonia avait son pauvre vieux bournou et son mouchoir vert. Son visage pâle et amaigri témoignait de sa récente maladie. En abordant le prisonnier, elle lui sourit d'un air aimable et content. Mais ce fut, selon son habitude, avec timidité qu'elle lui tendit la main. Elle la lui tendait toujours timidement. Parfois même, elle n'osait la lui offrir, comme si elle eût craint de l'avoir repoussée. Il semblait toujours prendre cette main avec répugnance. Toujours il avait l'air fâché quand la jeune fille arrivait, et quelquefois celle-ci ne pouvait obtenir de lui une seule parole. Il y avait des jours où elle tremblait devant lui et se retirait profondément affligée. Mais cette fois, leurs mains se confondirent dans une longue étreinte. Raskolnikov regarda rapidement Sonia, ne proféra pas un mot et baissa les yeux. Ils étaient seuls, personne ne les voyait. Le garde-chiourme s'était momentanément éloigné. Soudain, et sans que le prisonnier sût lui-même comment cela était arrivé, une force invisible le jeta aux pieds de la jeune fille. Il pleura, lui embrassa les genoux. Dans le premier mouvement, elle fut fort effrayée et son visage devint livide. Elle se leva vivement et, toute tremblante, regarda Raskolnikov. Mais il lui suffit de ce regard pour tout comprendre. Un bonheur immense se lut dans ses yeux rayonnants. Il n'y avait plus de doute pour elle qu'il ne l'aimât d'un amour infini. Enfin, ce moment était donc arrivé. Ils voulurent parler et ne le purent. Ils avaient des larmes dans les yeux. Tous deux étaient pâles et défaits, mais sur leurs visages maladifs brillait déjà l'aurore d'une rénovation. d'une renaissance complète. L'amour les régénérait. Le cœur de l'un renfermait une inépuisable source de vie pour le cœur de l'autre. Ils résolurent d'attendre, de prendre patience. Ils avaient 7 ans de Sibérie à faire. De quelle souffrance intolérable et de quel bonheur infini ce laps de temps devait être rempli pour eux. Mais Raskolnikov était ressuscité, il le savait, il le sentait dans tout son être. Et Sonia ne vivait que de la vie de Raskolnikov. Le soir, après qu'on eut bouclé les prisonniers, le jeune homme se coucha sur son lit de camp et pensa à elle. Il lui semblait même que ce jour-là, tous les détenus, ses anciens ennemis, l'avaient regardé d'un autre œil. Il leur avait adressé la parole le premier et il lui avait répondu avec affabilité. Il se rappelait cela maintenant. Mais d'ailleurs, il devait en être ainsi. Est-ce que maintenant tout ne devait pas changer? Il pensait à elle. Il songeait au chagrin dont il l'avait continuellement abreuvé. Il revoyait en esprit son petit visage pâle et maigre. Mais à présent, ses souvenirs étaient à peine un remords pour lui. Il savait par quel amour sans borne il allait désormais racheter ce qu'il avait fait souffrir à Sonia. Oui, et qu'était-ce que toutes ces misères du passé? Dans cette première joie du retour à la vie, tout, même son crime, même sa condamnation et son envoi en Sibérie, tout lui apparaissait comme un fait extérieur, étranger. Il semblait presque douter que cela lui fût réellement arrivé. Du reste, ce soir-là, il était incapable de réfléchir longuement, de concentrer sa pensée sur un objet quelconque, de résoudre une question en connaissance de cause. Il n'avait que des sensations. La vie s'était substituée chez lui au raisonnement. Sous son chevet se trouvait un évangile. Il le prit machinalement. Ce livre appartenait à Sonia. C'était dans ce volume qu'elle lui avait lu autrefois la résurrection de Lazare. Au commencement de sa captivité, il s'attendait à une persécution religieuse de la part de la jeune fille. Il croyait qu'elle allait lui jeter sans cesse l'évangile à la tête. Mais, à son grand étonnement, pas une seule fois elle ne mit la conversation sur ce sujet. Pas une seule fois même elle ne lui offrit le Saint-Livre. Ce fut lui-même qui le lui demanda, peu de temps avant sa maladie, et elle le lui apporta sans mot dire. Jusqu'alors, il ne l'avait pas ouvert. Maintenant encore, il ne l'ouvrit pas. Mais une pensée traversa rapidement son esprit. Ses convictions peuvent-elles à présent n'être point les miennes? Puis-je du moins avoir d'autres sentiments, d'autres tendances qu'elle? Durant toute cette journée, Sonia fut, elle aussi, fort agitée. Et dans la nuit, elle eut même une rechute de sa maladie. Mais elle était si heureuse, et ce bonheur était une si grande surprise pour elle, qu'elle s'en effrayait presque. 7 ans. Seulement 7 ans. Dans l'ivresse des premières heures, peu s'en fallait que tous deux ne considérassent ces 7 ans comme 7 jours. Raskolnikov ignorait que la nouvelle vie ne lui serait pas donnée pour rien, et qu'il aurait à l'acquérir au prix de longs et pénibles efforts. Mais ici commence une seconde histoire, l'histoire de la lente rénovation d'un homme, de sa régénération progressive, de son passage graduel d'un monde à un autre. Ce pourrait être la matière d'un nouveau récit. Celui que nous avons voulu offrir au lecteur est terminé.